Qui n'a jamais rêvé d'être un oiseau? Pour la liberté qu'ils évoquent, pour la capacité de voler, pour la qualité de chanteur, pour leur grâce. Quel que soit le critère, les oiseaux font partie de notre imaginaire et nous émerveillent. C'est le cas aussi pour Luc Péton, chorégraphe et danseur. Avec sa compagnie Le Guetteur, il crée des spectacles de danse pour danseurs et oiseaux. Rendez-vous donc avec cet artiste qui nous parlera des oiseaux, de la danse, de l'infini et de l'origine de la vie.
Bonsoir Luc Péton.
Bonsoir. Je suis ornitho-chorégraphe. Voilà. Ce qui veut dire que je suis un chorégraphe qui travaille non seulement avec des danseurs, mais avec des oiseaux vivants sur scène et des danseurs vivants sur scène qui partagent un moment poétique pour montrer que la relation entre le danseur, qui est l'artiste le plus animal, on va dire, peut s'entendre, peut partager, peut créer avec l'animal qui est le plus proche de nous dans notre psyché, mais le plus loin de nous dans les origines, puisque ça n'est pas un mammifère, c'est un descendant des dinosaures, qui est l'oiseau. Nous sommes à Couture. Couture, c'est un endroit absolument un peu hors du temps, parce que c'est une boucle dans la Garonne qui a pour habitude, quand la Garonne est un peu énervée, d'inonder cet endroit où nous sommes. Et donc, les habitants ont appris à vivre depuis des décennies et peut-être des siècles avec des crues potentielles et qui frappent très très régulièrement. Et de ce fait, il est interdit de construire. Ce qui fait que nous sommes dans un village de 350 habitants qui en ce moment en contient peut-être quelques milliers du fait du festival. Et donc on a l'impression d'être dans un endroit hors du temps qui est investi par des journalistes qui ont à voir avec le quotidien. Donc on est à la fois dans le paradoxe du quotidien et de l'infini. Et voilà. Avant de commencer à travailler avec les oiseaux en tant que chorégraphe, déjà je dois dire que je suis breton, hein, finistérien, né là en face de l'île d'Ouessant, à la Berre-Île-Lut. Et que le milieu dans lequel je suis né m'a fortement influencé, puisqu'à à l'époque, parce que je n'ai pas 20 ans là aujourd'hui par exemple, on n'avait pas forcément la télé, on n'avait pas accès à la culture aussi facilement que maintenant. Et que donc mes premières émotions artistiques, si on peut dire, c'était dans la nature, hein, avec à la fois tous ces animaux, ces oiseaux surtout qui arrivaient, et aussi les marées incessantes et très très fortes. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fortement inspiré. Plus tard, j'ai découvert les arts martiaux, notamment le karaté. J'étais champion de karaté, ceinture noire. Et un peu après, j'ai découvert la danse, et là, toute la danse contemporaine, et tout s'est mis en place. Et j'ai commencé la danse contemporaine aux États-Unis avec des maîtres assez célèbres, puis en Allemagne, dans une école assez célèbre, à Essen, d'où est issue Pina Bausch, avant de revenir en France et puis de créer une compagnie. Et à peu près aux alentours de l'an 2000, j'en ai eu un peu marre du milieu de la danse, des chapelles, de ce microcosme de la danse, et je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire fi de tout ce que j'entends autour de moi. Je vais faire une création qui me plairait de vivre, de faire, de voir, de montrer. J'ai décidé de faire une pièce avec une chorégraphie avec des oiseaux que j'ai appelée La Confidence des oiseaux, qui mettait en scène des pies, des geais, des corneilles, des étourneaux et quelques perruches, grandes perruches, qui sont des animaux qu'en fait on peut voir au quotidien autour de nous. Pas du tout exotiques, mais qui sont tellement proches de nous, tellement sous notre nez, que ça en devient zen, hein, nez, c'est nez à l'envers, qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait imaginer qu'il faut faire le tour de la planète pour voir quelque chose qui est à nos pieds? Et donc ce projet a été, je dois dire, assez pionnier, personne n'y croyait. Et puis, et ça a été une aventure fantastique jusqu'au moment où en 2008, je crois, on a fait le buzz en Avignon. Et à partir de là, tout a changé. Et ce projet est devenu viable et les gens, le public a absolument répondu à ça parce que ça lui faisait toucher des émotions immémoriales qu'ils n'étaient pas forcément capables de nommer, mais qui les touchaient profondément. Et c'est ça qui me plaît, et c'est en ce sens que je dis que je fais de la danse contemporaine parce que ça parle à mes contemporains.
Donc tu travailles avec les oiseaux. Comment on fait quand on est chorégraphe et qu'on travaille avec des danseurs humains pour travailler avec des danseurs oiseaux?
Eh bien, on accepte de s'effacer, de faire un peu preuve d'humilité et de prendre beaucoup plus de temps. Et les oiseaux qui sont par définition volatiles, volants et qu'on ne peut pas diriger, Donc l'une des solutions, c'est de faire appel aux recherches de Conrad Lorenz, qui est sur l'imprégnation, c'est de les avoir tout petits. Pour certains, hein, les pies légers, on a réussi à en avoir chez des éleveurs différents, qui étaient des oiseaux encore non volants, à peine plumés. Et donc on s'est mis à les nourrir à la main, toutes les heures, puis toutes les deux heures, puis toutes les trois heures, etc. Et quand c'était les pièces avec les cygnes ou avec les grues, là, on a carrément eu des œufs où les oiseaux ont éclos en couveuse et ont éclos devant nous. Alors, déjà aux œufs, on commençait à parler aux œufs, leur faire écouter de la musique, etc., pour que l'environnement humain et de théâtre ne les effraie pas, ne les stresse pas, mais au contraire, qu'ils les considèrent comme un milieu naturel. Donc le secret, c'est un peu de folie au départ, beaucoup de patience après, et puis beaucoup d'humilité pour laisser les choses advenir, pour attendre que la relation entre l'oiseau et l'humain se crée, avant de décider quelle chorégraphie on allait pouvoir créer.
Alors justement, comment est-ce que tu écris la chorégraphie qui va advenir après, en fonction de l'espèce, comment est-ce que tu travailles ?
C'est non seulement en fonction des espèces. Donc évidemment, pour choisir des espèces, il faut que moi-même, avant de commencer le projet, j'en ai une assez grande connaissance. Je ne voyage pas en terre inconnue totalement, en fait. Donc quand je fais appel à des jets, ou à des pies, ou à des grues, ou à des cygnes, je connais leur registre. Après, dans les espèces, il y a chaque individu, parce qu'il n'y a pas deux cygnes qui se ressemblent, il n'y a pas deux jets, deux pies qui se ressemblent. Les gens sont étonnés en me disant qu'on dit les pies, mais en fait, chaque individu a son caractère, comme les êtres humains. Et j'applique ce point de vue non seulement aux oiseaux, mais aussi aux danseurs. C'est-à-dire que je fais appel, je recherche des danseurs qui ont un bon rapport naturel avec les oiseaux, et aussi sur lesquels j'ai envie de créer. C'est-à-dire que je fais appel à leur naturel pour leur faire presque un costume sur mesure qui va aller dans le sens de ce que je veux voir plus tard. Donc je crée non seulement en fonction de chaque espèce d'oiseau, mais de chaque individu, mais aussi avec chaque individu danseur. Par contre, je prends beaucoup de temps pour créer un biotope, pour induire des bonnes situations, des bonnes conditions de travail, dans lesquelles chacun va pouvoir s'exprimer à un moment. Et là, j'attends, je suis à l'affût, hein, je suis aux aguets, pour ça que ma compagnie s'appelle le guetteur. Je guette le moment où quelque chose va se produire, je dis voilà, ça c'est exactement ça. Et après, je mets tout en œuvre pour pouvoir trouver comment reproduire les ingrédients pour reproduire cette situation.
D'accord. Et alors, comment t'es venue l'envie, l'idée de travailler avec des oiseaux ?
Ben, c'est un amour d'enfant, je veux dire, hein, ces émotions... que j'ai ressenti très fortement, vraiment très très petit, en pleine campagne. J'allais à l'école à travers champs. Donc évidemment, parfois je mettais des heures à rentrer chez moi, parce que voilà, je restais immobile devant un grillon, devant un nid d'oiseaux, etc., devant ces odeurs. Puis en Bretagne, comme tu sais, il y a du vent, donc parfois en hiver aller à l'école, c'était vraiment pénible. Et par contre, au printemps, tout d'un coup, il y a comme un relâchement, on sent vraiment le passage des saisons très fortement. Donc ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et donc, à un moment, après avoir eu des études de danse, de karatéka, un entraînement en compétition au niveau national, et puis de danseurs, hein, aux États-Unis et en Allemagne, à un moment, j'en ai vraiment eu marre de ce côté un petit peu trop intellectuel, hein, de la danse contemporaine. Et je me suis dit, finalement, c'est pas moi, ça me parle pas du tout, je m'exprime pas du tout comme ça. Et je considère que la danse, justement, a à voir avec un autre hémisphère. La danse doit faire rejaillir des émotions qui ne sont pas de l'ordre du raisonnable, en fait. Parce que la danse, c'est l'art d'avant la nomination, c'est-à-dire ça date de millions d'années, même avant l'invention du langage. La preuve, c'est que les animaux s'expriment toujours par la danse, aujourd'hui. Les animaux qui sont nos contemporains. Donc ça, c'est vraiment la racine, le désir.
Il est un peu plus confortable parce que j'ai un marteau. Mon marteau, il peut faire tout. Moi, ça, c'est mon bonbon d'inertie. Regarde, je peux te donner un bonbon. Tiens.
Ok, super.
Bonbon.
Il est bon.
Tiens,
il est
bon.
Tiens,
oui, il est
bon,
il est bon. Tiens,
pas trop tiens.
Et moi, j'en ai pas.
Mal
et moi, j'en ai pas. Et moi, j'en ai pas.
Luc, il a bien aussi.
Tiens, encore plus. C'est la réglisse celui-là.
Il est bon, la réglisse.
Il est
bon. Tiens. Tu veux que je te fasse une chaise plus confortable ?
D'accord.
Et
trop cool, voilà, trop cool. Si. Les pattes en rose, c'est
et
bien.
Et je vais te mettre un bon
Bon, c'est bon.
Hop, je t'en mets. Tu veux quoi comme bonbon?
Je t'en mets mes dents.
Tu veux quoi comme bonbon?
Peut-être à la fraise cette fois-ci.
Tiens.
Moi, je veux bien la fraise.
Je te donne un bonbon au chocolat.
Au chocolat, d'accord.
Un bonbon à la menthe ou un chocolat pour toi.
J'ai eu assez de bonbons. Je pense que vous pouvez aller en donner aux gens.
Vos voisins, ouais, sont jalouses, ils en veulent aussi. Et donc, c'est un peu cet esprit-là, tu vois.
Oui.
Et voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus vers nous. Et donc, ce désir de retourner, après avoir eu une... Parce que la formation en karaté, quand tu fais des championnats en karaté, la formation, elle est quand même très, très dure, voire parfois violente. Ceci dit, j'ai vécu parfois des instants presque d'extase dans des combats en karaté, étonnamment, tu vois. De symbiose avec un partenaire.
Ouais.
Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et donc, à un moment, j'en ai vraiment eu marre parce que je me sentais totalement étranger. Ayant eu mon éducation en danse, pas en France, mais aux États-Unis, où c'est très physique, hein, il faut vraiment... Et en Allemagne aussi. Donc, je me suis dit, c'était le moment pour moi, soit d'arrêter, soit de faire le saut, voilà, vraiment dans ce que je voulais voir. Et donc, ce projet avec les oiseaux est né d'un désir profond et d'une coïncidence dans mon histoire, quoi.
Avec quel type de danseur tu travailles et comment tu choisis tes équipes de danseurs?
Ce sont des danseurs qui ont un très grand naturel du mouvement, pour qui la technique a été complètement digérée, qui sont capables encore de trouver cette part ensauvagée en eux, quoi. Tu vois? Parce que pour arriver à faire un corps humain capable de marcher sur ses deux pieds, c'est une histoire de millions et de millions d'années. Mais même si on en est là aujourd'hui, hyper civilisé et policé, on a encore toutes les strates de l'évolution, de la sortie de l'œuf, de la mer, de ce petit têtard devenant, respirant encore avec ses branchies presque, commençant à découvrir la respiration aérienne, commençant à marcher à quatre pattes, à ramper, etc. Donc en fait, toute l'évolution de l'homme jusqu'à aujourd'hui, on l'a nous-mêmes dans notre corps. Et je pense que la danse a à voir avec ça, et que ce sont des émotions qui nous construisent et qu'on ne pourra pas oublier. Parce que même si notre esprit se développe, même si la technologie se développe à juste titre, même si l'évolution des consciences se fait de plus en plus grande, on ne pourra jamais perdre cet attachement à ce qui a été l'émergence de la vie sur cette planète, quoi.
Et c'est ça que toi tu cherches dans tes créations?
C'est pas ce que je cherche, c'est ce que je découvre. C'est ce que je découvre aussi avec la pratique et avec l'âge. Parce que, si tu veux, l'énergie qui a été présente lors de la création de notre univers ou de notre galaxie, elle est toujours présente dans l'univers. Et cette énergie, soit elle existait, soit elle n'a pas existé. Si elle existe, elle est toujours là, présente. Et donc, en s'ouvrant à ce type d'énergie, la danse répond totalement à ça. Et les oiseaux, et la nature, et les éléments, les différents éléments de la nature sont encore vibrants et répondent à ça. Même si, alors le paradoxe, c'est d'arriver à vivre en étant hyper civilisé, policé, en étant hyper branché, connecté, tout en ne reniant pas notre partie hyper archaïque. Donc, si un homo sapiens revivait aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il ait honte de nous aujourd'hui. Donc, l'idéal, ce serait qu'on ne lui fasse pas honte, tout en ayant découvert quelque chose, en ayant optimisé une force de vie qui ne nous appartient pas. Nous sommes l'objet, nous ne sommes pas responsables de ce qui a été lancé à ce moment-là. Nous sommes Et la danse et le corps est le médium tout à fait idéal pour parler de ça. Peteris Vasque. C'est la symphonie pour violon.
Alors, pour revenir un peu à tes créations, comment est-ce que les danseurs et les oiseaux travaillent ensemble?
C'est un travail paradoxal, c'est entre l'écriture et l'improvisation. C'est-à-dire qu'au fil des semaines, des mois, les danseurs apprennent à lire les oiseaux et les oiseaux à lire les danseurs. Ce qui fait qu'on partage quand même un langage commun. En revanche, sur le plateau, ça va rester ouvert. Donc ce n'est pas à proprement parler une improvisation sur une page blanche, mais c'est plutôt une écriture ouverte où chacun connaît un peu les registres de l'autre. Et en revanche, à côté de ça, il y a des séquences écrites où le danseur, à un moment, notamment quand il n'y a pas d'oiseau, là, il y a une chorégraphie qui est purement écrite. Mais même dans les parties écrites, je leur demande d'être ensemble, par exemple, mais ne pas être identiques. Ce qui est très différent. Être ensemble, ça ne veut pas dire être identique. Et je leur demande là de réagir entre eux comme s'ils devaient réagir avec un animal. C'est-à-dire que ce n'est pas un acquis. Par exemple, si je dois faire un porté avec un danseur ou une danseuse, ce n'est pas un acquis qui va accepter d'être touché. Ce n'est pas parce que c'est écrit que voilà, ça va de soi. Et du coup, ce porté-là n'a plus aucune importance. Puisque, voilà, ça, c'est... Et en fait, non. Chaque fois qu'on touche quelqu'un, quelque chose, on dérange. Ou... Voilà. Donc du coup, je demande... ce qu'on découvre avec les animaux et avec les oiseaux, j'invite les danseurs à l'appliquer à leur rapport entre eux.
Comment est-ce que c'est d'accompagner des êtres humains qui ont, en tout cas dans le cadre d'artistes danseurs, qui ont l'habitude du contact physique, qui ont été formés à ça, comment est-ce que c'est de les accompagner dans la redécouverte de ce que ça leur procure?
Eh bien, détrompe-toi, parce que beaucoup de danseurs ont une formation finalement de soliste. Quand tu travailles à la barre, t'es seul. Quand tu travailles à la barre au sol, t'es seul. Quand tu fais tes enchaînements, t'es seul. Et donc très souvent, du jour au lendemain, bon, maintenant on va faire des portées. Et en fait, ils n'ont jamais travaillé des portées. Paradoxalement, hein, sauf certains. Et donc, voilà, c'est notre éducation. C'est une façon d'être ensemble et de partager. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait quelque chose de vivant qui se passe, qu'ils vivent quelque chose, qu'ils vivent une expérience, là en direct sur scène, et que s'ils sont totalement dedans, et avec un oiseau, tu dois totalement faire abstraction, que tu es au centre du spectacle, que c'est un spectacle, tu dois uniquement être à leur écoute, travailler sur l'espace, les espaces entre, et ça, le public le sent totalement. Ils sentent totalement si quelqu'un est en train de restituer une chorégraphie, et tu vois, bon, c'est super, ils sont super forts, mais quelque part, tu vois qu'ils font leur boulot, quoi.
Ça vit pas.
Ça vit, mais pas beaucoup. En revanche, quand tu vois quelque chose qui rate, et ben, il se passe vraiment, véritablement, quelque chose. Et donc, quand on ouvre une scène avec un des oiseaux qui est un peu délicate, je leur dis, de toute façon, soyez tranquille, quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais faux. Donc ils se sentent aussi libres d'improviser, de trouver une réponse. Et moi, mon job à ce moment-là, c'est d'être à l'extérieur, de regarder, de leur donner un retour, de leur dire, voilà, là tu as attendu trop, tu vois, il t'avait fait signe depuis longtemps qu'il ne voulait pas le faire, ou qu'il voulait partir, ou qu'il voulait voler, et en fait tu ne l'as pas vu parce que à ce moment-là, tu étais trop concentré sur toi, ou au contraire, tu avais déjà... décidé un tout petit peu avant, tu avais décidé de ce qu'il voulait faire alors que lui n'était pas prêt. Et donc du coup, on reste dans le sensible, dans le vivant. Et c'est un peu comme une relation humaine presque amoureuse, quoi. On ne peut pas décider de quand la chose advient. Si tu décides et que tu ris, il ne se passe rien. C'est complexe, hein, parce que on est totalement... C'est pour ça que je disais que c'est un peu zen et c'est sous notre nez. Parce qu'on est à la frontière entre l'instant présent et l'infini. Et la seule chose qui soit pour un être humain infini, c'est l'instant présent. Jusqu'au moment où ça s'arrête.
En ce moment, tu travailles sur un nouveau spectacle ?
Voilà, je travaille sur un nouveau spectacle qui va s'appeler Ainsi la nuit. Pour travailler, au départ, je pensais que ça serait travailler sur la poétique de l'effroi, mais je m'aperçois que ça sera plutôt sur la conjuration de l'effroi, dans lequel je travaille avec des rapaces nocturnes, des chouettes lapones et des chouettes effraies. Des loups à un moment du spectacle, et puis des vautours qui est une espèce que je viens de rencontrer, de découvrir, qui sont des animaux étonnamment très intelligents, pour travailler sur la notion non pas d'incarnation mais de décarnisation, Parce que dans certaines traditions, les cadavres ne sont ni brûlés ni enterrés parce qu'il n'y a pas de bois pour les brûler et la terre est trop gelée ou trop dure pour les enterrer. Et donc on offre les cadavres humains en pâture aux oiseaux, aux rapaces, notamment aux vautours. Et ça m'a beaucoup interpellé, j'ai vu des films sur ça, qui sont très gore quelque part et en même temps absolument hallucinants, qui se passent aujourd'hui, hein, au moment où je te parle, là, en Inde, dans l'Himalaya et dans l'Himalaya. De pouvoir concevoir, comme dit Claude Régis, dont le titre de son dernier ouvrage est justement un régal pour les vautours, de concevoir qu'on puisse être à un moment un régal, n'être plus qu'un régal pour un vautour. Et en fait, j'ai découvert que ces vautours, on en a acquis deux, dont un s'appelle Rose et l'autre Hibiscus, c'est un pied de nez, puisque finalement ils sont très intelligents et très gentils. Finalement, même avec un vautour, on peut communiquer et imaginer faire une scène. Chose à laquelle je n'y pensais pas il y a quelques semaines encore, hein. C'est tout récent. Et donc voilà, c'est un peu un saut dans l'inconnu chaque fois. Et puis, faisant ce genre d'expérience, qui peut paraître complètement anachronique, farfelu, surréaliste, finalement, quand je suis dans un certain état, je m'aperçois qu'au contraire, ça n'est pas du tout anachronique. Au contraire, j'ai l'impression de me relier à une espèce d'histoire, hein, de la psyché humaine qui évolue très, 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 très lentement. Même si nous, en une ou deux générations, on a fait des sauts quantiques hallucinants, la psyché humaine évolue que très lentement. Et on est toujours quand même très à l'écoute. On est nourri par cet inconscient collectif, et en retour, notre mission, c'est aussi de continuer à le nourrir. Parce que si on se détache et qu'il s'appauvrit, les générations suivantes vont peut-être perdre cet accès, cette psyché collective, tu vois, peut-être.
C'est ce que tu appelles le temps immémoriel.
Tout à fait.
D'accord. Et alors, le travail avec des loups, ça doit être un peu différent du travail avec des oiseaux, non ?
Voilà, c'est très différent, effectivement, puisque les loups demandent beaucoup d'attention, ils sont très affectifs, très émotionnels, ils ne supportent pas de vivre esselés, ce sont des animaux qui vivent en meute, donc ça demande un très très grand... Et ils ont peur de l'homme, donc quand on arrive, même si moi ils me reconnaissent parce que je les ai eus tout petits, dès qu'un danseur arrive, ça prend énormément de temps. Donc sur scène, je ne sais absolument pas ce qui va devenir, en tout cas ils ne feront pas un numéro de cirque, ça c'est l'opposé, mais simplement leur présence comme ça, louvoyante, interroge et est très belle, quoi. Donc pour moi c'est vraiment une véritable découverte, quoi. Ils sont des êtres éminemment sensibles, quoi.
Alors une chose que je t'ai pas demandé, dans ton équipe de préparation de spectacle, donc il y a toi, le chorégraphe, il y a des danseurs, il y a des animaux, est-ce que tu travailles avec d'autres techniciens, des vétérinaires, je sais pas.
Il y a aussi des animaliers. Pour chaque projet, je forme en partie des animaliers qui sont déjà professionnels mais qu'il faut un peu reformé, hein, pour cette optique, parce qu'on ne cherche pas la performance. Donc chaque projet est dans mon équipe, il y a donc des animaliers, mais il y a aussi des techniciens, parce que par exemple une création lumière avec des oiseaux sur scène, c'est tout à fait particulier. Ça demande une très grande écoute, la création musicale aussi. Le technicien de plateau qui lui fait tout, parce que quand il y a des animaux sur scène, voilà, il y a des coulisses à ouvrir, il y a des sas, etc. Le technicien plateau doit aussi avoir un très bon feeling avec les animaux. Donc c'est toute une équipe qui vit un peu au rythme de l'animal. Et c'est pas gagné, hein, parce que faire admettre qu'on a un autre rythme de vie, dès qu'il y a la présence d'animal sur scène, on travaille différemment, on a des rythmes de répétition différents qui s'adaptent au temps des animaux. C'est pas chose gagnée. Quand le spectacle se déroule bien, on a l'impression vraiment que ça coule de source, que c'est... Et en fait, ça nous met dans des contraintes positives, hein, du coup, qui sont très très grandes, quoi. Et une notion de temps très grande.
Combien de temps ça prend la préparation d'un spectacle ?
On va dire 2 ans.
Entre le moment où tu commence à connaître l'espèce ou...
Entre le moment où j'y pense, au moment où je trouve tous les ingrédients, tous les individus, toutes les espèces, et puis toute la production. La première ou l'avant-première, on va dire 2 ans. Mais après, ce qui peut être différent avec un autre spectacle, c'est que tout le monde va mûrir ensemble, puisque les oiseaux ou les animaux, je les ai eu petits. Un vautour, ça vit 50 ans, une grue, ça vit 60 ans, une chouette, ça vit 15 ans, un étourneau une dizaine d'années, mais bon, tu vois. Donc du coup, la relation qui s'est établie avec ces animaux petits puis adolescents évolue, donc le spectacle évolue. Donc à quelqu'un qui aura vu le spectacle la première année, qu'il verra 3 ans, 4 ans, 5 ans après, il verra peut-être un spectacle aux 3 quarts différents.
Tu continues à tourner toutes tes créations ?
Non, hélas non, parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas l'infrastructure pour pouvoir garder tous ces animaux vivants autour de moi. Hélas, hélas, parce que j'ai beaucoup de demandes et j'adorerais. Mais il me faudrait 3 équipes, il me faudrait 3 fois plus de moyens. Mais moi, je suis intermittent.
Est-ce que tu as déjà pensé, imaginé, eu envie de travailler avec des danseurs qui seraient non-danseurs, en tout cas non-danseurs professionnels?
Ben ça, je dois dire que je le pratique, puisque quand on a une compagnie comme la mienne, conventionnée, on a aussi dans notre cahier des charges de faire beaucoup d'autres projets que la création. Depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, je travaille avec des enfants handicapés, des personnes âgées, et j'aime beaucoup, et j'apprends beaucoup, parce que quand un danseur apprend la présence, on va dire, la présence scénique, tu vois, il arrive, il se présente, voilà, je suis jeune, toutes mes cellules voilà, sont en place, etc. Mais je suis plus ému quand je vois, par exemple, quelqu'un qui a un handicap, qui plutôt essaye d'être transparent, tu vois, de pas se mettre en avant. Et finalement, ne se mettant pas en avant et étant transparent, il dévoile quelque chose de lui qui est beaucoup plus profond. Donc ça me parle beaucoup. Et travailler avec des animaux répond à cette question-là aussi, c'est-à-dire de mettre en scène, de mettre sur scène. Voilà, tout, parce que moi j'ai été formé entre autres par Alvin Nicolaïs aux États-Unis, où tout ce qui bouge peut être composé en fait. Tout mouvement peut être composé, tout son peut être composé et devenir musique. Donc je baigne dedans. Ce que je voudrais dire, c'est que le miracle d'être en vie, le miracle de vivant, que chaque être vivant, chaque être humain est le produit d'un miracle, puisque pour qu'il soit arrivé avec tout ce qui s'est passé dans l'évolution depuis qu'on a la moindre connaissance paléontologique, on va dire, de la vie sur Terre, pour que chacun soit arrivé vivant dans sa famille comme il est, c'est déjà un miracle propre. Mais on peut considérer que c'est aussi un miracle que chaque être vivant sur cette planète soit encore vivant, c'est aussi un miracle. Donc entre miraculés, on pourrait s'entendre.